Martino, le préféré du règne animal.
Bonjour, les petits lapins.
Ce week-end, vous devez absolument lire ce dossier dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Comment se porte le français hors Québec? Est-ce qu'il se porte bien? On se souvient hein, que René Lévesque disait des francophones hors Québec que c'était des « dead ducks », c'est-à-dire que des canards, pas boiteux, mais des canards morts. Il n'était pas très optimiste sur l'avenir du français hors Québec. Eh bien, je pense qu'il va se retourner dans sa tombe en lisant le dossier excellent de Guillaume Saint-Pierre, chef du bureau parlementaire à Ottawa. Bonjour, Guillaume.
Salut, Richard.
Alors,
je ne sais pas s'il va se retourner dans sa tombe parce que, en fait, je veux pas dire que l'histoire lui donne un peu raison, mais effectivement, c'est pas facile.
Ben non, c'est pas facile. Donc, le journal s'est rendu dans 7 provinces et comment se portent les francophones à l'extérieur? On savait que ma regrettée amie Denise Bombardier avait fait un documentaire, je crois, là-dessus sur le français à l'extérieur du Québec. Puis elle disait que ça se portait très mal, puis elle avait été hyper critiquée. Tu arrives un peu aux mêmes conclusions, Guillaume?
Ouais, mais je comprends aussi la réaction. Tu sais, c'est difficile lorsqu'on entend que c'est qu'on va disparaître, que dans le fond on s'accroche à un fil, mais en même temps, est-ce que tu sais, nous on est partis dans 7 provinces avec les données de recensement de Statistique Canada en main qui démontrent bien qu'il y a une glissade quand même phénoménale. Dans les dernières années, même dans les dernières décennies, tu sais, les francophones hors Québec ont fondu de moitié en pourcentage de population depuis les années 70. Donc, effectivement, après notre petite tournée, on se rend compte que c'est sûr que tu peux pas être optimiste quand tu es une minorité, parce que sinon tu t'assimiles et c'est fini, tu sais. Mais en même temps, il y a quand même une lucidité parmi beaucoup de gens là-bas puis beaucoup d'inquiétudes surtout. J'ai trouvé beaucoup d'inquiétudes.
L'historien Michel Brunet disait il y a 3 facteurs qui pèsent sur l'histoire d'un peuple, c'est le nombre. Hein, qu'est-ce que tu veux? Mm. Quand tu te rends compte que, mettons, par exemple, dans l'Ouest canadien, ben il y a plus de gens qui parlent mandarin que qui parlent français, veut dire le poids démographique aussi des francophones à l'extérieur du Québec, ben ils font comme neige au soleil, ben bien sûr que ça met en danger la pérennité de la langue française.
Ouais, ces communautés-là, c'est pas facile parce que, tu sais, il y a des phénomènes sociaux auxquels ils font face qui dépassent la langue, tu sais, la dénatalité, l'exode rural aussi. Parce qu'il faut savoir que la plupart des communautés historiques francophones hors Québec, ce sont de petits villages et de petites régions. Donc, eux voient les gens, ben, partir ou disparaître et se raccrochent beaucoup à, par exemple, l'immigration. Mais, jusqu'à présent, tu sais, il y a personne qui a vraiment trouvé de formule magique pour que le nombre, le poids des francophones stagne ou même augmente. Puis l'immigration, tu sais, je veux bien, mais en même temps, puis ils en sont très conscients, c'est que si les gens s'assimilent eux-mêmes, les natifs, ceux qui sont là, qu'est-ce qui dit que les immigrants ne vont pas non plus s'assimiler, tu sais?
Et tout à fait. Et écoute, on m'a envoyé les textes qui vont être publiés ce week-end dans le journal. Et en lisant ça, j'avais en tête la chanson magnifique de Marc Gélina, je crois, Mommy, Mommy, là, où c'est une petite fille qui parle en anglais. Puis elle dit, il me semble que maman, quand t'étais jeune, tu me parlais dans une autre langue. Puis je me souviens plus vraiment c'est quoi cette langue-là. Et ben c'est ça, tu sais, c'est déchirant, là. C'est une langue et une culture qui est en train de disparaître. Là.
C'est vraiment ce qui m'a le plus frappé. Puis je pense que, tu sais, à plusieurs égards, c'est une espèce de refrancisation qu'on voit. Ce sont des gens qui réapprennent pas la langue de leurs parents, parce que leurs parents étaient assimilés. Ils apprennent la langue de leurs grands-parents. Et par exemple, je suis allé faire un tour à Terre-Neuve, dans la péninsule de Port-au-Port, où c'est vraiment fascinant cet endroit-là. C'est une espèce de petite péninsule qui vivait comme en autarcie pendant des siècles, en fait. Tu sais, il y avait des Autochtones, il y avait des Acadiens, puis il y avait aussi des vieux pêcheurs bretons qui se sont installés là, puis se sont mélangés, qui vivaient en français pendant des siècles. Et puis donc, il y a eu une base américaine qui est arrivée au 20e siècle. Il y a eu après, bon, ben, on le sait, on connaît l'histoire du Canada. Là, dans toutes les provinces, il y a eu l'interdiction de la scolarité en français. Donc, c'était le cas aussi là-bas. Donc, ce qui fait en sorte que tu as une ou deux générations qui ont été complètement assimilées. Donc, les petites écoles qui ont poussé dans les années 60, 70, ben, surtout même 80, 90, mais les jeunes qui fréquentent ces écoles-là aujourd'hui réapprennent la langue de leurs grands-parents. Puis leurs parents, eux, c'est fascinant parce que ils te racontent en anglais l'histoire de leur propre assimilation.
Ah, hey, ça, c'est qui touchant, est, là. Qui
est complètement. Non, c'est vraiment touchant. Puis il en parle comme s'il se sentait encore francophone, comme s'il se sentait encore acadien. À l'île du Prince-Édouard, 25% de la population est de descendance acadienne. Aujourd'hui, à peu près 4-5% des gens ont encore le français comme principale langue à la maison. Et donc, il y a un paquet de gens qui connaissent cette histoire-là. Et parfois, ça donne lieu à de belles histoires où tu as un Acadien assimilé qui rencontre une militante francophone, comme j'ai rencontré, et qui t'explique que pour la première fois en 6 générations, ben sa descendance va parler français parce que la sienne l'a complètement perdu.
Wow. Donc c'est des textes très touchants, c'est des histoires humaines. Est-ce que aussi c'est tu sais François Legault parlait de crainte de louisianisation du Québec. Est-ce que c'est ce que le journal voulait faire aussi en disant si on n'est pas prudent, si on fait pas attention, peut-être pas au Québec, mais toi à Montréal, peut-être que le français risque de peut-être pas disparaître, mais s'affaiblir là, dangereusement?
Je pense que ça éclaire, en tout cas, l'importance d'utiliser les outils qu'on a au Québec. Parce que les autres nous regardent avec un certain envie. Parce que eux vivent dans un régime linguistique différent où ils n'ont pas de territoire. Il n'y a pas de territorialité. T'sais, au Québec, on a le territoire, on a l'État du Québec qui fait ses lois sur le territoire du Québec. Eux ont des municipalités qui fonctionnent un peu en français, des écoles, des institutions, tout ça, mais tout ça pour dire que utiliser les leviers de l'État pour imposer des lois linguistiques, c'est primordial finalement. Puis bon, avec la loi 96, il y a eu, par exemple, il y a eu beaucoup de critiques, ça a irrité beaucoup de gens. Mais en même temps, si tu avances pas quand tu es une minorité, même au Québec, ben tu recules. C'est un peu ça, je pense, la leçon qu'on doit apprendre de ce qui se passe dans le restant du pays.
Et Guillaume, tu es chef de bureau parlementaire à Ottawa. Est-ce que, moi, la question que je me pose en lisant ces textes-là et ces dossiers-là, c'est un moment donné, là, peut-être pas tout de suite, là, mais un moment donné, tu sais, le narratif du Canada, comme quoi il y a deux langues officielles et tout ça, ça sera plus tenable. Parce qu'il va y avoir plus de gens qui parlent punjabi ou mandarin ou que français. Et là, il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi on continue à dire que le français devrait être une des deux langues officielles alors que cette langue-là est de moins en moins parlée au pays?
J'en parlais avec justement Patrick Taillon, constitutionnaliste qu'on connaît bien là, et puis c'est un peu ce qu'il disait, c'est-à-dire que tu sais le Canada était fondé sur cette idée qu'il y a deux pères fondateurs, deux langues, deux nations d'une certaine façon, biculturelles, en ce moment l'idée du Canada c'est un peu c'est beaucoup plus individualiste, c'est chacun un peu dans. C'est le multiculturalisme un peu, c'est chacun dans sa culture, dans sa langue, et tout ça. Donc, ça fait un peu rétrograde, un peu folklorique aux yeux de beaucoup de gens, à l'extérieur du Canada, cette espèce de combat linguistique et culturel, parce qu'ils disent, pourquoi en faire autant pour une seule province, pour un groupe linguistique même.
C'est ça.
Puis effectivement, lorsque le français sera plus la deuxième langue dans beaucoup de provinces, est-ce que ça risque de de miner cette idée du bilinguisme officiel au pays.
Ben, tout à fait. Donc, la question se pose. On a un super dossier. Très content de te parler, Guillaume Saint-Pierre, parce que j'aime beaucoup tes écrits. Je te lis régulièrement avec plaisir. Donc, c'est à lire ce week-end dans le Journal du Québec, le Journal de Montréal. Guillaume Saint-Pierre, chef du bureau parlementaire à Ottawa, qui a piloté ce dossier-là. Merci beaucoup. Bon week-end.